France Culture, 7h-9h, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
Obligatoire, voilà donc désormais le qualificatif qui, de plus en plus souvent, va avec le mot masque. Au tout début, c'était pénurie. Il a aussi, il y a quelques mois, été question de guerre des masques lorsque les précieuses livraisons étaient vendues au plus offrant sur le tarmac. Et puis, il y a aussi, parfois depuis quelques semaines, devant le mot masque, le mot anti. Une lecture rapide de la pandémie à travers ce morceau de tissu ou de papier, accessoire ou comportement, puisque la question est de le porter. Les pouvoirs publics qui ont, au départ, tant hésité à son sujet, en font désormais l'arme ultime pour éviter un nouveau confinement généralisé. Bonjour Frédéric Keck.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, directeur du laboratoire d'anthropologie sociale du CNRS, auteur d'Un monde grippé, publié en 2010 chez Flammarion, et plus récemment du livre Sentinelles des pandémies, chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine, sorti en juin aux éditions Zone Sensible. C'est un livre qui s'appuie sur vos travaux de recherche menés entre 2007 et 2013 à Taïwan, Hong Kong et Singapour. Je voudrais que l'on parte de ce sujet des masques. En avril, vous aviez écrit un texte, une tribune sur le masque dans Le Monde, le journal Le Monde, dans lequel vous écriviez qu'en France, l'obligation du port du masque serait une révolution, notamment en raison de notre rapport à l'espace public, à notre définition de l'espace public. Comment voyez-vous aujourd'hui l'évolution du débat sur cette question et la manière dont, effectivement, cette obligation s'étend peu à peu ?
Oui, l'obligation de porter le masque dans l'espace public en France est troublante au moins à deux égards. D'abord parce que c'est difficile de légiférer sur les questions de tissu. C'est un point que Montesquieu avait soulevé déjà au XVIIIe siècle dans la discussion sur la barbe, les turbans. On ne peut pas imposer le port ou non d'un vêtement dans l'espace public, sauf pour des raisons sanitaires, évidemment. Et puis la deuxième raison pour laquelle c'est troublant, c'est qu'effectivement, en France, en 2004, au moment où les sociétés asiatiques commençaient à porter le masque pour se préparer à une épidémie de type SRAS ou grippe, eh bien, la société française avait voté l'interdiction du foulard islamique dans les écoles. Ce vote correspondait à une option profonde de la République française, qui est que dans l'espace public, il faut se présenter à visage découvert, mais qui est en contradiction justement avec le principe de Montesquieu sur lequel on n'impose pas d'obligation sur les questions de tissu ou de vêtements. Donc on est aujourd'hui dans cette tension, c'est-à-dire que on ne peut pas imposer le port du masque dans tout l'espace public, il faut le faire de façon fragmentée, ponctuelle, dans des zones dont on discute à chaque fois la pertinence pour des raisons scientifiques.
Et petit à petit, donc, on voit bien effectivement que ça gagne du terrain. Là, le dernier élément en date, ce sont donc les entreprises, avec la ministre Elisabeth Borne qui va proposer demain aux partenaires sociaux. Donc, pour poursuivre sur le titre de votre tribune à l'époque, nous sommes donc en train de vivre cette révolution ?
Alors, c'est une révolution au sens où ça engage profondément un des principes de la République française, donc depuis la Révolution française, qui est ce principe de se présenter à visage découvert dans l'espace public. En même temps, c'est une révolution qui a eu lieu depuis au moins un siècle dans les sociétés asiatiques, puisque depuis la peste la peste respiratoire pneumonique de 1920 en Mandchourie, le port du masque a été prescrit par un médecin chinois et fait partie des attributs de la modernité chinoise. Donc c'est en quelque sorte une révolution qui a eu lieu ailleurs et qui se déplace chez nous.
Alors vous travaillez en ce moment, je crois, Frédéric Keck, sur cette question du port du masque sous la forme d'un projet comparatif entre différents pays. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit et puis aussi nous dire ce qui vous intéresse sur cette question avec ce travail-là?
Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment les citoyens vont s'approprier cette injonction du masque, qui est d'abord sanitaire. Effectivement, le masque, on a des preuves de son efficacité dans les lieux clos. C'est encore discuté pour les lieux ouverts. Effectivement, on a eu dans un premier temps une pénurie de masques. Et les citoyens ont pu se retourner contre l'État pour ne pas avoir stocké suffisamment de masques. Aujourd'hui, la fabrication et la circulation de masques sont à peu près régulées, et donc les masques sont disponibles. Il s'agit de savoir comment les citoyens vont s'approprier cette mesure qui, pour l'instant, en l'absence de vaccin, est la seule disponible pour se protéger contre cette épidémie. Alors, effectivement, l'obligation du masque a un caractère très vertical, qui fait que c'est pour ça qu'on demande d'ailleurs la gratuité des masques, hein, dans une optique vraiment franchement républicaine. L'État a plutôt choisi de laisser les citoyens acheter ou fabriquer leurs masques, ce qui laisse une place à l'inventivité, voire la fantaisie, dans la fabrication et le port du masque. Alors le port du masque, il faut effectivement que ça suive les consignes sanitaires, c'est-à-dire que la bouche et le nez soient recouverts. Mais par contre, est-ce qu'on va acheter un masque recyclable ou un masque en tissu? Quels sont les motifs de ce masque? Tout ça est laissé à la liberté du citoyen. Et ça, c'est un motif d'invention et même de liberté dans une période où on a l'impression que nos libertés se réduisent.
Et donc, alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ce projet de comparaison?
Nous allons comparer plusieurs villes dans lesquelles le masque va s'imposer dans les mois à venir. C'est un projet qui n'a pas encore commencé. Alors d'abord, deux villes en France qui sont Paris et plus particulièrement la Seine-Saint-Denis et Marseille, dont on sait qu'elles ont eu des relations très très différentes avec ce virus. Des villes dans lesquelles le CNRS a des unités, ce qu'on appelle des UMIFRE, des unités de recherche à l'étranger, donc qui sont Hong Kong, Dakar et Tucson dans l'Arizona, qui est un état intermédiaire entre les grands états républicains et les grands états démocrates. Et on sait que aux États-Unis, le port du masque est une question très politique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi de voir en France en quoi est-ce que le port du masque correspond aussi à des options religieuses, c'est-à-dire est-ce que le port du voile ou du foulard islamique est un facteur limitant ou au contraire favorisant pour le port du masque, et également est-ce qu'il y a un biais de genre entre les hommes et les femmes. Pour l'instant, nous n'avons aucune indication sur ces données-là.
Alors, parenthèse, avant de poursuivre, vous évoquiez la gratuité, effectivement, que certains demandent ici pour les masques. Dans les pays dans lesquels vous avez travaillé, où le masque est beaucoup plus répandu depuis beaucoup plus longtemps, justement, qu'en est-il de ce point de vue-là? Est-ce que c'est payant? Est-ce que ça coûte cher?
Alors, à Hong Kong, Taïwan et Singapour, le masque n'est pas obligatoire. Par contre, il est majoritairement porté, surtout dans les périodes, bien sûr, d'épidémie ou de risque épidémique. Il est porté par les citoyens comme un geste de bon comportement quand on se sent malade, quand on tousse. Il est d'un coût très modeste, puisque c'est des masques jetables qui sont disponibles dans tous les commerces.
Alors au moment du déconfinement, Frédéric Keck, la question autour du port du masque était plutôt de savoir ce que cela pouvait changer à nos interactions sociales. Vous étiez d'ailleurs venu en parler sur France Culture, en débattre. Aujourd'hui, le débat s'est déplacé autour de la capacité que l'on a à accepter ou non cette obligation, et aussi de la remise en cause, en tout cas par certains, de ce qui justifie cette obligation. Aujourd'hui, le débat, c'est ça. Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on accepte cette obligation, et dans quelle mesure on la trouve justifiée?
Oui, alors ce débat anti-masque recoupe celui qu'on a eu depuis une dizaine d'années sur les anti-vaccins. Puisqu'effectivement, face à des menaces épidémiques nouvelles, où les comportements des pathogènes sont imprévisibles, l'État doit utiliser des mesures qui, jusque-là, faisaient consensus, mais dans de toute autre mesure, de toute autre dimension. On l'a bien vu sur le H1N1 avec le vaccin, on le voit aujourd'hui sur le masque, où, dans un premier temps, on a reproché à l'État de ne pas avoir assez de masques, et maintenant on lui reproche de l'imposer dans certains espaces. Alors, bien sûr, les arguments anti-vaccins et les arguments anti-masques ne sont pas du tout les mêmes. Hein. L'argument anti-vaccin fait plutôt valoir une immunité naturelle. Mm. L'argument anti-masque fait plutôt valoir, alors justement, le caractère viril ou spontané du visage découvert, hein, transparent, et également. Le fait pour les jeunes de ne pas porter de symptômes de cette maladie. Donc, il va falloir regarder comment se déploient ces arguments anti-masques sur les réseaux sociaux. Ça avait été assez bien fait pour les arguments anti-vaccins. Et il va falloir effectivement regarder comment se structurent les manifestations. On a vu à Berlin,
oui.
Dans un pays où pourtant il semblait que la population soutenait les autorités sanitaires, de fortes manifestations anti-masques.
Et il y en a eu hier, alors c'était quand même tout de même beaucoup moins important, mais quelques centaines de personnes à Bruxelles et à Madrid. Tout de même, sur la comparaison avec les vaccins, il y a quand même quelque chose de très différent entre le vaccin et le masque, c'est que le vaccin, on fait entrer quelque chose dans notre corps. Le masque, c'est à l'extérieur. Donc, la controverse, en tout cas, du point de vue de ce que ça peut faire au corps, par exemple, elle est, sur le masque, elle ne tient pas.
Oui, je crois que le débat sur le masque était aussi très lié avec la période que nous vivons, qui est celle de l'été, de la chaleur, et donc de l'inconfort que produit le masque. Ce qui est intéressant, c'est que le masque est gênant pour des raisons à la fois matérielles et symboliques. Symbolique, on l'a dit, parce qu'on veut se présenter à visage découvert. Comme le dit Donald Trump, ça permet de montrer son beau visage et sa belle chevelure. La gêne matérielle, elle est à la fois justement toute l'économie du masque, le fait qu'il faut soit le fabriquer, soit l'acheter, et puis le recycler, le laver. Bon, tout ça, il faut le prévoir. Et puis la gêne matérielle, c'est tout simplement l'inconfort, la chaleur. Ça peut produire tout à fait des nausées, voire des évanouissements. Et donc, dans cette période difficile de l'été et de la canicule, il a fallu apprivoiser tous ces nouveaux effets du masque. Mais on peut supposer que avec la rentrée, la baisse des températures et la diffusion de cette pratique dans les espaces publics clos, ces gènes soient surmontés. Ce qui serait intéressant, c'est de voir comment elles vont être surmontées.
Alors après, voilà, il ne faut sans doute pas aussi grossir ce mouvement. Je ne sais pas si on peut parler de mouvement anti-masque, mais c'est quand même suffisamment pris au sérieux pour que l'Inserm, par exemple, publie un texte sur son site pour démonter les rumeurs sur le masque qui serait dangereux ou inefficace. Est-ce qu'il n'est pas aussi question ici, Frédéric Keck, d'une certaine défiance à l'égard peut-être de l'expertise, de la parole scientifique ou de l'État aussi, parce que là, ce qui apparaît aussi avec le masque, c'est qu'on nous demande de le porter, alors que il y a quelques mois, on nous disait que ça n'était pas utile aussi.
Oui, alors on découvre effectivement que l'expertise scientifique repose sur des données qui sont elles-mêmes en changement permanent. Effectivement, le masque, au début de la pandémie, on considérait, sur le modèle de la grippe, que ça n'était pas utile en dehors des hôpitaux. On se rend compte que pour ce coronavirus qui se transmet de façon asymptomatique pendant une période assez longue, il a une véritable efficacité. Donc effectivement, les pouvoirs publics ont dû changer leur position indépendamment même de la pénurie de stock. Et effectivement, les vaccins, c'est une pratique qu'on avait à laquelle on était habitué depuis un siècle dans le pays de Pasteur. Les masques, c'est beaucoup plus difficile, mais on comprend que en l'absence de vaccins, c'est la seule mesure qui permet de se protéger seulement, puisque un grand nombre de personnes sont asymptomatiques, voire ont déjà été infectées par l'épidémie et donc ont des anticorps, mais de protéger les autres, c'est-à-dire de ne pas expectorer des virus qui sont en train de circuler à bas bruit et qui pourraient causer une explosion épidémique à la rentrée.
Et effectivement, vous insistez là-dessus beaucoup, voilà, sur le fait que porter un masque, c'est se protéger soi-même, mais aussi, peut-être surtout, protéger les autres. Dans un article qui avait été publié sur le site de France Culture au mois d'avril, Pierre Leroux, qui est ethnologue spécialiste de l'Asie du Sud-Est, disait à propos des masques, ces mesures imposées aux Asiatiques ne sont pas vécues comme une contrainte par les populations et on peut l'expliquer grâce à plusieurs clés de compréhension de ces sociétés. Tout d'abord, dit-il, elles sont verticales, pyramidales et respectent une seniorité et donc aussi une juniorité sociale où chacun obéit à son aîné.
Oui, alors effectivement, la question des masques rentre pleinement dans le domaine des anthropologues, puisque depuis que nous avons découvert la diversité des masques que portent les sociétés dans des rituels religieux qui ont souvent une dimension sanitaire, ou ce qu'on appelle apotropaïque, c'est-à-dire pour se protéger des esprits invisibles, eh bien les anthropologues ont eu l'habitude de comparer les formes des masques et de s'interroger sur les motivations et les pratiques dans lesquelles ces masques s'inscrivent. Alors dans le cas des sociétés asiatiques, ce qui est intéressant, c'est effectivement cette relation entre les jeunes et les vieux, qui est assez différente de la nôtre. Dans des sociétés où la piété filiale est une valeur cardinale, où jusqu'à récemment les enfants vivaient avec leurs parents, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle cette question que nous avons rencontrée dans les sociétés occidentales, de savoir combien de vies nous allions sauver au sacrifice de l'activité économique, eh bien la Chine ne se l'est pas posée, pas seulement parce que c'est un régime autoritaire, voire dictatorial, mais aussi parce que la piété filiale est un principe fondamental dans les relations entre les générations. Et on voit comment la préparation à une épidémie de maladies respiratoires qui, depuis une quinzaine d'années, engageait surtout les relations entre les humains et les animaux, notamment... C'est ce que j'ai beaucoup étudié autour de la grippe aviaire et puis tout ce qu'on a découvert sur les chauves-souris avec le SRAS. Eh bien, maintenant que l'épidémie s'est répandue dans le monde entier, elle engage les relations entre les générations les plus jeunes et les générations les plus âgées, qui est une autre coupure sociale aussi forte que celle entre les humains et les non-humains, et sur laquelle les anthropologues ont travaillé depuis longtemps. Et on va voir comment, dans les diverses sociétés, cette coupure entre les jeunes et les plus âgés va se rejouer.
Et ici, justement, chez nous, c'est intéressant tout de même de noter, depuis quelques semaines, et d'ailleurs vous en avez parlé un petit peu rapidement tout à l'heure, mais il y a ce discours très ciblé sur les jeunes, où effectivement, on parle beaucoup des jeunes et de leur rapport au risque aussi, qui peut-être serait différent des plus âgés, c'est-à-dire la conscience du risque. C'est aussi intéressant, justement, de ce point de vue. Comment vous lisez ce discours, voilà, très, très ciblé sur les jeunes et les jeunes responsables, ou irresponsable en l'occurrence, plutôt dans la bouche quand même des dirigeants, beaucoup.
Alors, je vois dans ce discours un mélange de paternalisme et de compréhension. Paternalisme parce qu'on voit qu'en France, depuis le début de cette épidémie, la gestion est quand même assez paternaliste sur le mode « nous avons des messages de santé publique, vous devez les appliquer ». Alors que dans d'autres sociétés, comme celles que j'ai étudiées, Hong Kong ou Taïwan, on laisse plus de liberté aux citoyens, on leur donne plus de responsabilité. Et en même temps, c'est un discours plein de compréhension sur le mode « bon, vous avez bien respecté le confinement, les vacances, c'est un moment où on fait la fête, c'est très important la fête en France, donc on laisse quand même ces clusters de jeunes se développer autour des fêtes de vacances ». Et on essaye de contenir les clusters pour éviter l'explosion à la rentrée. Et je crois que ce discours est assez prudent, il est assez efficace, et on peut effectivement comprendre que après une période dans laquelle toute forme de mobilité était impossible, il a fallu un peu lâcher les brides, ouvrir la cocotte minute, pour que justement des relations sociales réelles puissent s'engager. Toute la question, c'est de savoir maintenant comment on va gérer la rentrée, qui est une nouvelle temporalité de l'épidémie.
Et oui, absolument. Et justement, là-dessus, je voudrais qu'on revienne à cette question du sacrifice, dont vous dites qu'elle est centrale depuis le début dans cette crise. Le Conseil scientifique régulièrement plaide dans ses avis pour la mise en place de lieux de dialogue, de concertation, pour associer la société aux choix qui seront pris. Et notamment, justement, qu'est-ce que l'on est prêt à faire comme sacrifice? Pourquoi? Pour qui? Ce sont des questions qui sont encore devant nous, Frédéric Keck.
Oui, tout à fait. Dans le travail que j'avais fait sur la crise de la vache folle, et ensuite la grippe aviaire, j'avais décrit comment des formes de pratiques sacrificielles étaient acceptées dans des sociétés néolibérales qui valorisaient au contraire la circulation et la vie humaine. Pour les maladies d'origine animale, c'est surtout le sacrifice des animaux qu'on abat pour préserver les animaux qui sont sains à la consommation. Alors, le sacrifice qui s'est imposé dans le confinement, c'était celui de l'activité, de la circulation, qui sont des valeurs auxquelles on était attaché du fait même du libéralisme des sociétés dans lesquelles on vit. Et donc, on est effectivement dans ce moment où, après avoir fait un sacrifice majeur pendant quelques mois, il faut revenir dans des valeurs un peu plus laïques et donc intégrer les gestes sanitaires dans une vie ordinaire. Et là, on ne pourra plus reposer effectivement sur l'autorité sacrificielle de l'État.
Frédéric Keck, anthropologue directeur du laboratoire d'anthropologie sociale du CNRS, votre livre « Les sentinelles des pandémies » publié aux éditions Zone Sensible. Nous vous retrouvons à 8h20 pour poursuivre cette discussion après le journal et la chronique de Libération.
France Culture, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
Et nous retrouvons à 8h20 notre invité Frédéric Keck, anthropologue, directeur du laboratoire d'anthropologie sociale du CNRS. Votre livre « Sentinelle des pandémies, chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine » a été publié en juin aux éditions Zone Sensible. Nous avons parlé avant 8h des masques, du masque, du port du masque. Vous nous disiez que vous alliez travailler sur un projet comparatif sur cette question dans plusieurs villes du monde, en France, Paris, Marseille, Dakar au Sénégal, Hong Kong et Tucson en Arizona aux États-Unis. Au-delà de cette question du masque, Frédéric Keck, nous sommes dans un moment tout de même un petit peu étrange où il y a, en tout cas en France, voilà, d'un côté des médecins, des spécialistes très pessimistes sur la suite des événements, des pouvoirs publics qui sont beaucoup sur le mode du rappel à l'ordre et une partie de la population qui reproche à ses gouvernants et aux médias aussi d'être dans l'exagération, dans l'anxiogène, dans la construction de la panique. Est-ce que nous ne sommes pas tout simplement en train de nous confronter à cette nouvelle donne qui est de vivre dans le domaine de l'incertitude pour un temps indéterminé précisément ?
Oui, la difficulté dans laquelle nous sommes, c'est que depuis une trentaine d'années, les politiques internationales sont en grande partie régies par l'anticipation des pandémies. C'est devenu un objectif de régulation internationale depuis la fin de la guerre froide. Et donc, s'il faut anticiper les pandémies, on est toujours dans le débat sur en fait-on trop ou pas assez. Est-ce qu'on peut véritablement calculer les risques d'apparition ou de mutation d'un virus pandémique? Et donc sur cette question, on a trois types d'acteurs. On a effectivement les autorités internationales qui fédèrent l'ensemble des travaux scientifiques. On a les États qui prennent des mesures en fonction d'histoire nationale. Et puis on a les populations, les citoyens qui doivent s'approprier ces mesures. Et donc là, si on est dans l'anticipation, ça pose un problème de temporalité. Alors, il y a une sorte de double temporalité qui se croise. Il y a la temporalité des virus eux-mêmes, des pathogènes, qui est celle des mutations et des transmissions. Ça, c'est le travail des virologues et des épidémiologistes. Et puis, il y a la temporalité sociale. Ça, c'est plutôt le travail des sociologues et des anthropologues. C'est ce que Émile Durkheim, le fondateur de la sociologie française, appelait les intermittents de la vie sociale. Et là, on voit que on est en ce moment dans un deuxième temps de la pandémie, après celui de la préparation à la pandémie qui vient, où on a beaucoup reproché à l'État français de ne pas être suffisamment préparé. Eh bien, on demande maintenant aux citoyens de se préparer à la deuxième vague. Alors, le concept de deuxième vague pose problème aux épidémiologistes parce qu'il est calqué sur le modèle de la grippe, où effectivement, c'est un virus qui mute, qui dépend beaucoup plus des conditions saisonnières que le coronavirus, qui est assez stable et qui, apparemment, ne dépend pas beaucoup de la température. Mais le concept de deuxième vague est assez pratique, parce que ça permet à l'État de faire passer un message aux citoyens en rapport avec quelque chose d'assez fondamental dans notre conscience collective, ce qui est l'idée de rentrer des classes.
Oui, voilà, ça coïncide avec...
Voilà, donc c'est un point où la temporalité sociale l'emporte sur la temporalité du virus. Mm. Ce qui est intéressant avec ce concept de deuxième vague, la raison pour laquelle il prend dans l'opinion, c'est justement qu'il permet... s'accorder avec notre rythme social et qu'en plus il permet de ralentir l'épidémie alors même qu'en fond on a des bruits de fond, on a des clusters qu'on essaye d'étouffer mais on n'a pas véritablement une deuxième vague. Mmh. Donc le concept de deuxième vague, il permet justement aux citoyens de se préparer à ce qui vient. Et donc c'est ça au fond, vivre au temps des pandémies, c'est être toujours dans l'anticipation de la prochaine mutation, de la prochaine transmission, mais dans ce décalage entre la temporalité sociale et la temporalité biologique.
Et vous dites justement, Frédéric Hecq, qu'il faut devenir adulte dans notre relation avec les virus. Comment fait-on cela ? Là, même si l'on parle beaucoup moins de guerre qu'au début, nous sommes toujours tout de même dans cette logique du virus ennemi. Est-on vraiment devenu adulte ?
Alors... J'espère que le discours, pour le coup, n'est pas paternaliste. C'est-à-dire, devenir adulte dans la relation au virus, c'est intégrer les informations scientifiques sur ce qu'est un virus. Effectivement, un comportement infantile, et ça peut effectivement se propager jusqu'au plus haut sommet de l'État, consiste à penser qu'un virus est un ennemi et qu'il suffit de fermer les frontières pour se protéger contre un virus. Or, un virus, c'est un morceau d'information qui cherche à se répliquer et qui, dans certaines conditions, notamment quand il vient de réservoirs animaux, comme ici les chauves-souris, produit des réactions immunitaires catastrophiques, ces fameux orages de cytokines qui conduisent dans les réanimations à une imprévisibilité du comportement de la personne qui est confrontée au virus. Est-ce qu'il va s'en sortir ou pas? Donc devenir adulte, c'est effectivement apprendre à vivre avec les virus. Alors en même temps, c'est pas effectivement une sorte d'ouverture à tous les pathogènes qui circulent dans l'atmosphère. Et c'est là que la question de la temporalité revient. C'est-à-dire, on voit bien qu'on pouvait pas faire comme Boris Johnson le proposait au mois de mars, c'est-à-dire laisser l'immunité naturelle se faire. On aurait eu 500 000 morts ou peut-être 100 000 dans les grandes nations européennes. Ça aurait été inacceptable du point de vue de nos valeurs collectives. Par contre, effectivement, tout le travail qui se fait en ce moment, c'est de ralentir l'épidémie en jouant sur cette double temporalité du social et du biologique.
Alors justement, je voudrais vous soumettre, vous faire réagir à ce discours aussi qui monte sur ce que certains appellent tyrannie sanitaire ou logique sanitariste. Par exemple, ce week-end, dans le quotidien belge Le Soir, Olivier Servet, qui est anthropologue professeur à Louvain, et le chercheur François Gémen, qui travaille sur les migrations et le dérèglement climatique, signe un texte titré « La tyrannie du risque zéro ». Il parle notamment dans ce texte d'une pente douce vers laquelle nous mènerait une stratégie hygiéniste, je cite, qui vise à faire disparaître de nos vies virus, bactéries, champignons. Le risque zéro doit-il être un objectif de santé publique? Depuis le début de la crise pandémique, cette logique sanitariste a été amplifiée. On a privilégié un rapport au corps physique individuel comme corps vulnérable au détriment de l'entretien d'un corps social activateur de liens. Que pensez-vous de ces discours, de ces craintes, Frédéric Hecq?
Alors, bon, le concept de tyrannie sanitaire pose problème parce qu'on voit bien qu'il y a des régimes très autoritaires, voire dictatoriaux, et d'autres plus libéraux, et que notre République se situe plutôt du deuxième côté. Et c'est d'ailleurs pour ça que les avis des experts sont indépendants de la décision politique. Donc il s'agit plutôt, là, de voir comment des mobilisations internationales sur l'anticipation des pandémies depuis une trentaine d'années sont répercutées dans les différents États en fonction de leur tradition politique. La nôtre étant effectivement une République à la fois autoritaire et libérale, ce qui est assez compliqué à tenir. Mais effectivement, ce concept résonne aussi avec celui de biopolitique qui a été proposé par Michel Foucault à la fin des années 70 et qui a pris du fait de l'importance de la pandémie de sida et ensuite de toutes les mesures qui ont été prises justement pour anticiper la prochaine pandémie et qui conduisent, c'est vrai, à des sociétés de la surveillance où les données numériques sont utilisées pour suivre les propagations des virus, où effectivement les masques conduisent chacun à se surveiller les uns les autres pour voir si on respecte les mesures sanitaires, et ça peut susciter un certain effroi. Je crois cependant que ces mesures sanitaires permettent d'être responsables face à cette nouvelle temporalité biologique et sociale, laissent des marges d'interprétation aux individus.
Alors on va bientôt terminer, Frédéric Keck, mais comme d'autres, vous dites depuis le début qu'il n'y aura pas de retour à la normale d'avant, en tout cas. Vous êtes anthropologue, on parle souvent de rupture anthropologique, justement, peut-être terminer en nous disant finalement de quoi s'agit-il quand on dit rupture anthropologique, et est-ce que vous en voyez une ici, dans ce que nous vivons en ce moment ?
Alors, c'est une... J'avais parlé de révolution pour jouer avec un vocabulaire fondamental de notre tradition nationale. Rupture anthropologique, c'est un peu fort, parce que, pour le coup, la révolution politique succède à des révolutions industrielles et écologiques. L'agriculture industrielle qui a favorisé le développement de ces nouvelles maladies animales. On est dans une révolution au sens où les développements accélérés du capitalisme global depuis une quarantaine d'années et les alertes environnementales auxquelles elles ont donné lieu se trouvent réalisées de façon accélérée. Ce que j'aime pas trop dans le terme rupture, c'est effectivement qu'on a l'impression qu'on passe d'un temps à un autre, alors que ce qui m'intéresse dans la situation présente pour le diagnostic, c'est ces temporalités qui jouent à la fois sur l'accélération de dynamiques globales qu'on pressentait mais qui ne se réalisait pas, et le ralentissement que l'État essaye d'imposer à l'épidémie et pour lequel il demande le relais des citoyens.
Merci beaucoup Frédéric Keck, sentinelle des pandémies, chasseur de virus et observateur d'oiseaux aux frontières de la Chine, et publié aux éditions Zone Sensible. Et puis nous suivrons évidemment avec grand intérêt votre prochain travail, donc de projet, de comparaison autour du port des masques. Évidemment, il faudra pour cela qu'il soit de nouveau possible de voyager. Donc on espère que ce sera bientôt. Merci beaucoup Frédéric Keck d'être venu sur France Culture ce matin. Il est 8h31.